Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
You can vote Labour so that we will properly fund and protect our national health service, our social care system.
Bonjour à tous. Moins de 5 jours après un nouvel attentat au Royaume-Uni, les Britanniques ont participé ce jeudi aux législatives anticipées convoquées par Theresa May. La première ministre entendait se donner une majorité confortable afin de négocier la sortie de son pays de l'Union européenne. Mais en fin de campagne, ce sont les questions de sécurité qui ont monopolisé les débats. Et pour le coup, Theresa May s'est retrouvée en position d'accusée, contexte qui a contribué à faire chuter les conservateurs dans les sondages au profit des travaillistes. Le Labour, qui contre toute attente, pourrait faire de bons scores. Le reportage de Marie Billon.
Jeremy Corbyn n'en finit pas de surprendre. Élu par les militants en 2015, alors qu'on ne lui donnait presque aucune chance, réélu un an plus tard, malgré des caciques qui ne demandaient que son départ, le chef des travaillistes semble aujourd'hui être presque devenu premier ministrable.
Ceux qui veulent nous faire du mal, diviser nos communautés et attaquer notre démocratie n'y parviendront jamais. Nos valeurs, la solidarité, l'humanité et la justice l'emporteront.
On disait Jeremy Corbyn faible en matière de sécurité. La droite l'accusait d'avoir été proche de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, d'avoir soutenu le Hamas, de refuser aux policiers le droit de shoot to kill, tirer pour tuer un terroriste comme ils l'ont fait samedi soir lors de l'attaque de Londres. Il s'était aussi vanté d'avoir voté contre toutes les lois antiterroristes. Mais le chef du Parti travailliste a fait de son mieux pour casser son image de pacifiste mou, sans pour autant compromettre son image aux yeux de ses supporters.
C'est un homme qui a de la compassion quand il parle, ça vient du cœur. Theresa May a exprimé de la compassion ces derniers jours et c'est la première fois que je vois ça, mais lui, il est sincère. Quand il parle, ça vient du cœur. C'est pour cette raison que je serai toujours une supporter du Labour et de Jeremy Corbyn, quel que soit le résultat de ces élections.
Mais le Parti travailliste n'a pas spécialement profité de ces attaques. Il a pu accuser les conservateurs au pouvoir depuis 6 ans de ne pas être à la hauteur en matière de sécurité et même réclamer la démission de Theresa May. Comme les autres partis, il a fait de la récupération politique, mais le Labour avait déjà rattrapé une partie de son retard dans les sondages avant même les attentats de Manchester et Londres. Les commentateurs, les conservateurs et même certains membres du parti estimaient que beaucoup renonceraient à voter travailliste à cause de Jeremy Corbyn. Ils avaient sous-estimé l'attachement à la marque Labour, comme le confirment ces deux hommes vivant l'un à Édimbourg, l'autre dans le Cheshire, dans le nord de l'Angleterre.
J'ai toujours voté travailliste toute ma vie, et bien que j'ai des doutes sur la capacité de Jeremy Corbyn à être un bon leader, j'estime que leurs propositions sont plus humaines que celles des autres partis. Ils s'intéressent aux vrais gens.
J'ai beau ne pas aimer Corbyn et certaines de ses idées, au fond de moi, je suis travailliste. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'il n'ait pas le soutien de son parti.
Face à l'enjeu électoral, les députés, les caciques du parti ont eu leurs critiques. Beaucoup font cependant de leur mieux pour ne pas avoir à défendre ou promouvoir leur leader dans les médias et sont donc peut-être moins présents sur les plateaux. Sans compter que quelques figures connues ont décidé de ne pas se représenter, en partie, disent les commentateurs, pour manifester leur désapprobation face à leur chef et sa ligne idéologique. Les candidats sur le terrain, eux, ont été nombreux à prendre soin de ne pas imprimer une photo de Jeremy Corbyn sur leur prospectus, pour éviter d'être trop associé à son image, car le vent n'a pas complètement tourné. Le leader très à gauche de l'ancien parti de Tony Blair en rebute certains.
J'ai toujours voté travailliste, mais l'équipe en charge du parti n'inspire pas confiance. Je pense que Jeremy Corbyn est plein de bonne volonté et qu'il est sincère, mais je ne lui fais pas confiance.
Corbyn, non. La moitié de ma famille a toujours voté Labour, mais pas cette fois à cause de lui. Et pourtant, de là où on vient, dans une région pauvre du nord de l'Angleterre, on vote à gauche d'habitude. De toute cette histoire, la seule personne qui s'impose en leader fort, c'est Theresa May.
Les conservateurs pourraient bien en effet récupérer les voix de déçus du Labour, surtout celles des pro-Brexit, qui avaient jusque-là tendance à rejoindre le parti populiste UKIP, mais qui est aujourd'hui en perte de vitesse. Oh, give me back the good old days when Britannia ruled the waves and built a mighty empire on colonies and slaves. We were stuck in Europe
But now we can be free, back in Little Britain, the way it used to be.
Quelle que soit l'issue du scrutin de ce jeudi, le Premier ministre issu de la nouvelle majorité devra négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avec une frange de la jeunesse britannique particulièrement europhobe. Nous vous proposons aujourd'hui le premier volet d'une série de reportages sur ces jeunes anti-européens. Première étape, Birmingham avec Karina Coran.
Victoria Square, Birmingham, la grande ville populaire du centre de l'Angleterre. Cet après-midi, des centaines de personnes se sont rassemblées pour manifester contre le droit à l'avortement. Tous portent un bracelet pro-life, pour la vie, et beaucoup sont aussi pro-Brexit. Alex est originaire d'un petit village près de la frontière galloise. Il est barman pour financer ses études et membre du parti conservateur. C'est sa foi dans le marché et le libre-échange qui a convaincu cet étudiant en économie qu'il fallait quitter l'Union européenne.
Les échanges avec l'Europe diminuaient, tandis qu'ils augmentaient avec le reste du monde. Pourquoi alors ne pas se tourner vers le reste du monde plutôt que vers l'Europe ?
Mais dans l'Union européenne, n'ayant rien connu d'autre, Alex ne se sent-il pas tout de même un peu européen ?
Absolument pas. En mélangeant tout, en créant une identité européenne unique, l'Europe détruit les cultures nationales et les merveilleuses diversités que, par exemple, les Français peuvent offrir ou les Britanniques. En 5 ans, on dirait que la moitié des habitants de mon village est devenue polonaise.
Cette peur de la libre circulation des personnes dans l'Union est très présente chez les jeunes eurosceptiques. Amy, 28 ans, physiothérapeute à Londres et d'origine nigériane, est venue à Birmingham pour assister à la manifestation.
Je ne voulais pas que la Turquie rejoigne l'Union européenne et que les musulmans arrivent en Angleterre. J'ai entendu qu'elle allait rejoindre l'Europe, que ça devenait concret. Et quand la Turquie sera membre, les Turcs pourront accéder à l'Europe. Donc des terroristes pourraient venir en Angleterre sans être détectés.
Pour Charlotte Galpin, spécialiste des politiques européennes à l'université de Birmingham, cette rhétorique est incontestablement populiste. Elle fait appel à des symboles, au peuple, à la morale, des arguments impossibles à vérifier empiriquement et rejette les raisonnements contre le Brexit comme venant d'une propagande élaborée par les élites du pays.
Avant le référendum, UKIP a réussi à se faire la voix des laissés pour compte, des pauvres. Il essayait de parler d'une manière différente des autres politiques, d'une manière choisie pour s'adresser aux gens ordinaires. Nigel Farage jouait par exemple le rôle de l'homme normal au pub, avec lequel on peut aller boire une bière et s'identifier.
Si ces jeunes ont des positions tranchées, il reste une exception en Grande-Bretagne. 4/5 des moins de 25 ans ont voté pour rester dans l'Union européenne et ils sont 64% à avoir glissé un bulletin de vote dans les urnes. Un bon score dans un pays où la participation des jeunes est habituellement très faible. Depuis que Theresa May a adopté le discours populiste de UKIP, les Tories se sont imposés comme le parti le plus crédible pour sortir de l'Union sans compromis. Et selon la politologue Charlotte Galpin, c'est une vague de conservatisme qui pourrait bien déferler sur le Parlement britannique.
En 2012, elle obtenait le statut de candidat. Depuis, la Serbie se prépare à entrer dans l'Union européenne, avec toute une série de critères à remplir. 35 chapitres sont négociés pendant la phase de pré-adhésion. Mais pour le pays, un chapitre pose particulièrement problème. C'est le 23e, celui qui porte sur le système judiciaire. Il faut faire encore pas mal d'efforts en matière de lutte contre la corruption. Alice De Batis de la RTBF a pu s'en rendre compte dès son arrivée à Belgrade.
Nous sommes ici parce que cet État et ce gouvernement violent la loi.
Sinisa Mali, le maire de Belgrade, a volé notre ville.
Les manifestants sont ici rassemblés pour dénoncer le Belgrade Waterfront Project. Il a été lancé il y a 1 an. Un promoteur immobilier des Émirats arabes est en train de construire le long de la rivière Sava qui traverse la ville, un luxueux complexe avec des appartements, des bureaux, des commerces et une tour de 200 mètres de haut. Les citoyens dénoncent le manque de transparence dans ce projet immobilier.
Ce contrat entre les Serbes et les Arabes est flou, c'est suspect. Pourquoi ? Qui ? Combien ? Et c'est pourquoi les gens sont révoltés.
Le mot corruption est sur toutes les lèvres, une corruption dont est accusé le gouvernement serbe depuis de nombreuses années. Ramunas Janusovska est porte-parole de la délégation de l'Union européenne en Serbie.
Nous sommes vraiment préoccupés par les problèmes de corruption. Nous travaillons avec le gouvernement et avec différents instituts indépendants. Ce n'est pas seulement lié aux lois, mais à la façon dont elles sont mises en application. Cela demande aussi un changement de pratique et un changement de mentalité. Une adhésion à l'Union est un bon cadre pour lutter contre la corruption.
L'Union européenne donne en effet 200 millions d'euros par an à la Serbie pour aider le pays à promouvoir les réformes nécessaires à son adhésion. 18% de ce montant est utilisé pour mettre en place un état de droit. C'est dans les bureaux du ministère de la Justice que l'on élabore de nouvelles lois et de nouvelles stratégies. Sedomir Bakčević nous accueille. Il dirige le groupe de négociation du chapitre 23. Mais il nous prévient tout de suite, la Serbie ne compte pas jouer les premiers de classe.
Nous assumons le fait que nous n'allons pas devenir un État modèle par rapport à tous ces critères. Nous cherchons juste à atteindre la moyenne acceptable sur chacun de ces problèmes.
Sur base de ces critères, le ministère a rédigé un plan d'action. Il fait plus de 400 pages et un tiers de ce plan porte sur la corruption.
La répression de la corruption est quelque chose dont on s'occupe avec des institutions très développées qui existent déjà, comme le ministère des Affaires intérieures, l'Office du procureur et bien sûr la Cour. Mais la Commission européenne et les experts ont déterminé que la lutte contre la corruption devait comprendre des mesures de prévention. Alors, nous avons créé une agence anticorruption. Elle s'occupe principalement de recenser la situation financière des fonctionnaires publics.
L'agence fait également état d'éventuelles situations de conflit d'intérêts, une avancée dans le domaine sur le papier, mais quand on y regarde de plus près, des doutes s'installent. Selon la Commission européenne, aucune des recommandations de cette agence anticorruption n'ont été prises en compte par le gouvernement en 2016. Elle va même plus loin. Dans le domaine de la prévention contre la corruption, il n'y a pas eu de progrès l'année dernière. Zlatko Minić est membre de l'ONG Transparency Serbia. Il fait le même constat.
Quand vous regardez le plan d'action prévu, aucune des mesures importantes qui auraient pu faire changer les choses dans le domaine de la prévention n'ont été prises. Je ne sais pas comment il est possible de dire qu'il y a eu une quelconque amélioration pour combattre la corruption.
Et du côté de la répression, pas de grandes avancées non plus pour Sacha Dorjević, membre d'un centre de réflexion sur la sécurité basé à Belgrade. Il s'agirait même d'une pièce de théâtre.
L'année passée, pour les élections parlementaires, il y a eu une grande opération policière. Entre 80 et 90 personnes ont été arrêtées. Tout était comme dans un film. Il y avait des policiers avec des armes et tout était filmé, diffusé à la télévision pour montrer qu'il y avait une grande bataille contre la corruption. Mais après un an, pas de poursuite judiciaire, pas de verdict. C'est l'un des gros problèmes. La lutte contre la corruption en Serbie ressemble à une supercherie médiatique.
Pour le moment, l'Union européenne a ouvert avec la Serbie 8 des 35 chapitres à négocier avant son entrée dans l'Union européenne. Jean-Claude Juncker l'a dit quand il a pris la tête de la Commission européenne. Aucun pays ne rejoindra l'Union sous son mandat. Cela laisse encore quelques années à la Serbie pour adopter les acquis communautaires chers à la bannière bleue étoilée.
Le prélèvement de l'impôt à la source, ce ne sera finalement pas pour tout de suite en France. Sous la pression du patronat, le Premier ministre Édouard Philippe vient de repousser son application au 1er janvier 2019 au lieu de 2018. Ce prélèvement à la source est pourtant la règle et parfois depuis longtemps chez la plupart de nos voisins européens, mais selon des modalités assez différentes selon les pays. Nous allons voir tout ça avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors revenons d'abord à la France qui temporise.
Comme vous l'avez dit, les entreprises, notamment les PME, souhaitaient depuis l'annonce de la réforme en 2015 ne pas avoir à assumer le service après-vente de la direction des impôts et effectuer toutes les modifications requises sur les fiches de paie de leurs salariés. En outre, en ce début de quinquennat, où il entend restaurer la confiance des citoyens, Emmanuel Macron redoutait l'effet psychologique d'une diminution du salaire net sur la fiche de paie. Et puis, de nombreux représentants des contribuables s'inquiétaient des conséquences de cette individualisation de l'impôt sur le revenu, notamment sur le système de caution familiale. Toujours est-il que le Premier ministre maintient la réforme en se contentant de la reporter pour en modifier les modalités de fonctionnement, car, selon lui, elle permet d'ajuster en temps réel la perception de l'impôt à l'évolution des revenus. De fait, si en 2018, les salariés vont donc payer comme d'habitude leur impôt de 2017, dès janvier 2019, ils devraient payer chaque mois leur impôt en temps réel, c'est-à-dire sur leurs revenus de cette même année 2019. 2018 sera donc une année blanche dans le sens où aucun impôt ne sera perçu au titre des revenus de l'année 2018.
Alors Daniel, est-ce que cet impôt à la source a été adopté partout en Europe ?
Oui, tous les pays de l'Union européenne l'ont adopté. Et certains depuis fort longtemps, en partant du principe qu'avoir un salaire doublement net de charges sociales et d'impôts, c'est plus simple et plus clair, du moins en principe. Car ce prélèvement direct sur le revenu à la source peut devenir une usine à gaz si on veut prendre en compte les statuts particuliers de chaque contribuable.
Alors plus précisément, Daniel ?
Eh bien, si vous prélevez les impôts sur les salaires, le plus simple est d'estimer que chacun paie individuellement des impôts en fonction de ses seuls revenus salariaux. Il n'y a alors pas de modulation en fonction, par exemple, de la situation familiale des contribuables. Pas de caution familiale, c'est-à-dire pas de prise en compte du nombre d'enfants à charge. Les Britanniques ont été jusqu'au bout de cette logique. Au Royaume-Uni, la notion de foyer fiscal est inconnue. Depuis 1944, année du passage au prélèvement à la source, les impôts sont déduits des salaires et sont calculés individuellement. Être marié ou avoir des enfants n'a donc aucune incidence sur le montant des impôts. Quant aux revenus hors salaire, comme les revenus locatifs ou les revenus de placement financier, ils sont déclarés séparément par chaque contribuable.
Alors, quel pays a été le premier en Europe à imposer le prélèvement à la source ?
C'est l'Allemagne. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu remonte à 1808 en Prusse orientale. La Bavière a suivi en 1814 et il a été généralisé à l'ensemble de l'Allemagne en 1920. Depuis, les employeurs sont chargés de prélever directement cet impôt sur le salaire de leurs salariés avant de le reverser aux administrations fiscales des Länder. Mais dans le cas allemand, on tient compte de la situation familiale. Quand il est recruté, le salarié doit donner à son employeur sa carte d'impôt remise par l'administration. Chose jugée peu acceptable en France, les employeurs savent ainsi tout sur la vie privée de leurs employés, notamment s'ils sont mariés, célibataires ou divorcés, le nombre d'enfants dont ils ont la charge et même leur religion.
Alors, quels sont les pays où ce système d'impôt à la source est, selon vous, le plus compliqué dans sa mise en œuvre ?
C'est certainement en Belgique et en Italie. En Belgique, depuis 1962, on a mixé prélèvement à la source et calcul sur l'année antérieure. Cette retenue fiscale différée porte le doux nom de précompte professionnel. Son montant est calculé en fonction de la situation familiale du salarié et cela prend en compte tous les revenus, y compris ceux du capital. C'est le salarié qui déclare ses impôts, mais c'est à l'employeur de les prélever en les déduisant du salaire. Pour les professions libérales et indépendantes, c'est l'inverse. Les impôts sont alors perçus chaque trimestre par anticipation en fonction des revenus attendus de l'activité.
Et en Italie, c'est encore un autre système.
Depuis 1973, l'impôt est retenu chaque mois sur les salaires, mais ces prélèvements sont ensuite déduits de l'impôt final déclaré individuellement par chaque Italien, quelle que soit sa situation familiale. En effet, comme au Royaume-Uni, la notion de foyer fiscal n'existe pas dans ce pays, avec cependant une différence de taille, puisqu'en Italie, de multiples déductions sont liées au nombre d'enfants pour chacun des parents. C'est tellement compliqué que de nombreux contribuables doivent s'adresser à un fiscaliste. D'autant que les erreurs sont lourdement pénalisées alors que l'heure n'est plus du tout au laxisme fiscal dans la péninsule.
Merci Daniel Vigneron, étude à retrouver sur votre site myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40, temps universel.